Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Bonjour à vous, bon réveil, nous sommes le dimanche 10 octobre, très heureuse de vous retrouver pour notre matinale week-end CNews Europe 1 avec le journal bien sûr, toujours avec Elisa Lukavski. Bonjour Elisa, nos débats 7h10, 8h10 mais aussi nos rendez-vous et Évasion vous emmènera à Chantilly, la capitale du cheval. On ira aussi dans les coulisses du nouveau parti d'Édouard Philippe avec Louis de Raguenel et bien sûr ne manquez pas à 8h40 votre rendez-vous avec Jean-Pierre Elkabbach, son invité ce matin, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publique. Merci d'écouter Europe 1, il est 7h. Et on commence ces 2 heures d'information en direct. N'oubliez pas notre débat donc à 7h10, juste après le journal. J'en profite pour accueillir sur notre plateau Guillaume Bigot et Éric Revel. Bienvenue à tous les deux. Les titres de ce dimanche matin, à 6 mois du premier tour de la présidentielle, sans être encore candidat, Éric Zemmour continue de semer le trouble à droite et notamment au Rassemblement national. Sympathisants, militants ou élus, ils sont de plus en plus nombreux à envisager de quitter le RN pour le rejoindre. Nous irons à Toulouse avec un exemple de réussite de mixité sociale. Depuis 4 ans, des collégiens de quartiers réputés difficiles ont été intégrés dans des établissements de quartiers favorisés. Leur taux de réussite au brevet a augmenté, vous le verrez, de façon spectaculaire. Et puis un rendez-vous pour le prestige ce soir à Milan. On parle de foot. Les Bleus défient l'Espagne, la meilleure équipe du moment en finale de la Ligue des Nations. Ils espèrent emballer le match comme lors de leur folle remontée contre la Belgique jeudi soir. On commence donc cette édition avec la politique et une journée particulièrement chahutée pour Éric Zemmour hier.
Oui, vive tension hein, en marge du déplacement de l'écrivain et polémiste. Il était hier à Ajaccio hein, dans le cadre toujours de sa tournée promotionnelle et juste avant la réunion qu'il tenait sur le port, des altercations entre ses soutiens et des personnes hostiles à sa venue ont éclaté. Les CRS ont dû intervenir. Son discours a finalement pu se tenir. Éric Zemmour, pas encore candidat, mais il fédère déjà. Qu'il soit sympathisant ou ancien élu du Rassemblement national, ils sont nombreux à quitter le parti de Marine Le Pen pour rejoindre les soutiens du polémiste. Illustration avec ce reportage en Bretagne de Mickaël Chailloux.
Son dernier mandat d'élu local sous les couleurs du RN a pris fin à la rentrée, après la défaite aux élections régionales. Après 35 ans comme sympathisante puis militante, Agnès Richard a rendu sa carte du Rassemblement national.
Je ne me reconnaissais plus dans les idées portées par le Rassemblement national. Devenu trop lisse. L'islam est compatible avec la République. Là, par contre, c'est un gros coup de tonnerre. Enfin, non, c'est pas... Ce n'est pas nos idées.
L'ex-conseillère régionale de Bretagne vient de rejoindre le camp Éric Zemmour. Selon Gilles Penel, le patron du RN dans la région, aucun élu local en poste étiqueté RN n'a quitté le parti. Il met en garde tous ceux qui seraient tentés de le faire.
Ce n'est pas parce que M. Zemmour fait dans la radicalité médiatique que nous serions devenus lisses. Éric Zemmour est un polémiste, un écrivain, un commentateur. Il met des mots MOTS sur les problèmes de la France. Jean-Marie Le Pen puis Marine Le Pen mettent eux des solutions.
Agnès Richard n'en démord pas.
C'est l'homme providentiel, je dirais.
Elle est sûre qu'Éric Zemmour sera bientôt un candidat officiel à l'élection présidentielle.
En déplacement dans le Nord hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a parlé des questions concernant l'immigration. Il en a profité pour demander au Royaume-Uni la négociation d'un traité sur la question migratoire, ainsi que des fonds pour lutter contre le trafic sur les côtes françaises. On l'écoute.
Nous sommes pour un accord européen Grande-Bretagne, un accord qui est fondé sur évidemment la réciprocité et la souveraineté de nos deux États, qui règle le problème des demandes d'asile, qui règle le problème des reconduites, qui règle le problème du regroupement familial. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'accord. Et lorsque nous présiderons l'Union européenne au 1er janvier, le président de la République m'a chargé de pousser encore l'idée de cet accord. Et nous attendons depuis maintenant un an la réponse du gouvernement britannique.
Ce geste d'une violence inouïe dans une école et qui fait vivement réagir ce matin, Elisa.
Oui, après une vidéo choc, celle d'un élève qui ne respecte pas l'autorité de son enseignante alors qu'elle lui demande de rester en classe. En lui bouchant la sortie, eh bien, vous allez voir, il ne l'écoute pas. Il va la bousculer violemment et il quitte la salle. Ça s'est passé à Comblaville en Ile-de-France. Le syndicat national des lycées et collèges espère une sanction grave contre l'agresseur et l'élève qui l'a filmé. Écoutez ce syndicaliste qui s'exprime sur les faits.
Dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à ce type de violence, que ce soit physique ou psychologique. Nous, ce que nous attendons surtout, c'est que l'autorité de l'enseignant soit complètement restaurée. Il va y avoir un dépôt de plainte.
Tout autre chose, mais peut-être bientôt la fin de certains panneaux à Paris, et ça commence déjà à provoquer un début de tollé.
Oui, ils sont voués à disparaître. La mairie de Paris l'a annoncé vendredi. Elle compte enlever les panneaux de direction et notamment ceux indiquant les monuments et lieux importants de la capitale. Mais qu'en pensent les Parisiens? Réponse avec Marion Delpech et Florian Paume.
Ils pourraient disparaître des rues de la capitale. Perchés depuis plus de 25 ans sur d'immenses mâts, ces panneaux de signalisation noir et blanc sont jugés obsolètes par la ville de Paris. Mais l'idée est loin de faire l'unanimité.
Mais non. Et comment on va se retrouver? Pas tout le monde a un iPhone.
Ça fait un peu partie du charme de Paris, je trouve, ainsi un peu, donc c'est peut-être un peu dommage.
Les touristes, ils ont besoin aussi des éléments. Bon, bien sûr, on peut toujours se repérer par rapport à son téléphone, mais bon...
Jugé encombrant à l'heure du GPS par le premier adjoint de la maire de Paris, certains de ces panneaux ont déjà été démontés. Mais coup de théâtre vendredi, Anne Hidalgo annonce ne pas être au courant de cette suppression.
Je ne suis vraiment pas au courant de l'enlèvement de ces grands mâts, non. Ils sont retirés, c'est sûrement pour être remplacés, mais pas... non, on a besoin bien sûr d'avoir des mâts. Après, il y a trop de signalisation qui nuit à la signalisation, donc on nettoie un peu, oui.
Ce désencombrement de l'espace public parisien s'inscrit dans un projet mené par la ville de Paris, destiné à donner une nouvelle allure au paysage urbain de la capitale.
Attention pour ceux qui ont des problèmes avec leur sens de l'orientation. Ils vont aller droit au but ce soir. En théorie, on parle de football. Espagne-France, l'affiche de la finale de la Ligue des Nations.
Les Bleus, champions du monde, qui vont affronter la meilleure équipe du moment, l'Espagne. Un match qui sera sans Adrien Rabiot, testé positif au coronavirus. En attaque, on devrait retrouver Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann. En soutien, il fêtera ce soir sa 100e sélection. Le sélectionneur Didier Deschamps est confiant, mais il reste prudent avant ce rendez-vous. On écoute.
Qu'il y ait une expérience un peu plus importante de notre côté, oui, bien évidemment, d'avoir déjà un vécu, une expérience du très haut niveau, mais ce n'est pas pour ça que ça va nous donner des garanties sur ce qui se passera demain. Demain, il faudra tous les ingrédients pour faire en sorte d'aller chercher ce titre.
Merci Elisa, prochain point complet avec l'information à 7h30. Tout de suite, un coup d'œil sur notre temps de ce dimanche avec vous, Claire Delhomme. C'est un festival en ce moment.
Exactement, le maintien du beau temps, que ce soit pour aujourd'hui et pour les jours à venir. En attendant, il faudra attendre la dissipation progressive des brumes et brouillards matinaux. Mais regardez, le soleil s'impose déjà largement, à l'exception encore d'un petit peu de nuages vers les bords de Manche, qui sont d'ailleurs plus menaçants en direction des Pyrénées ainsi qu'au niveau des Alpes, avec en prime une petite averse très localisée. Pour les températures, elles sont stationnaires, légèrement au-dessus des normales. D'ailleurs, encore 18 degrés pour la capitale, 17 degrés à Strasbourg, 21 degrés à Bordeaux et jusqu'à 23 degrés encore pour la Méditerranée.
Merci beaucoup Claire, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
7h07 exactement, le débat sur CNews et Europe 1 avec Guillaume Bigot, politologue, rebonjour à vous.
Rebonjour.
Et Éric Revel, éditorialiste politique, directeur de la direction de Challenge. Et vous venez de publier « Fenêtre de tir, la présidentielle 2022 et le grand retour de l'ordre », c'est aux éditions Ring.
Directeur de la revue L'Hémicycle.
Directeur de la revue L'Hémicycle. Pardonnez-moi, Éric Revel. C'est bien noté. Alors, on va parler évidemment de cette présidentielle. C'est dans 6 mois, jour pour jour. Premier tour, le 10 avril 2022. 6 mois qui promettent pas mal de rebondissements, c'est le moins qu'on puisse dire. Un sondage, on en a beaucoup parlé cette semaine, croit voir au second tour Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Aucun des deux, on le rappelle, n'est officiellement candidat, mais le président prépare sa réélection. On va en parler avec vous. Voyez d'abord ce reportage où des militants commencent à tracter un peu partout sur les marchés. C'est un sujet signé Clémence Barbier et Francesco Cavelli.
Bonjour madame, le bilan d'Emmanuel Macron. On fait un petit peu de lecture pour le week-end.
Tract en main, Amaury, référent La République en marche du 17e arrondissement de Paris, ah bah oui, et d'autres militants.
Vous en avez assez des tracts ?
Tente de convaincre les électeurs.
Alors, c'était une petite modification sur la CSG, mais on est revenu justement sur cette mesure-là.
J'ai pas vu beaucoup la couleur. Hein.
Vous avez pas voté ?
Non, je vais plus voter, c'est fini. Je suis encore changé d'ici là, mais...
À 6 mois de l'élection présidentielle, difficile pour les Français de choisir son candidat.
Est-ce que le bilan vous a convaincu ? Ben, sur pas mal de choses, oui. Sur l'immigration, non.
J'en sais rien cette année.
je suis quand même moins motivé.
Ce serait une très bonne chose qu'il puisse avoir un deuxième quinquennat.
Le président est en pole position dans les sondages, mais un autre le talonne.
En ce moment, on est accaparé par le Zemmour là aux infos.
De quoi agacer Estelle, adhérente d'En Marche.
Ouais. Effectivement, on en parle beaucoup de Zemmour en ce moment. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas vraiment de proposition. Et donc, alors que nous, on a un bilan.
Les alliés d'Emmanuel Macron restent en ordre de marche tous les samedis jusqu'au scrutin en avril 2022.
Au-delà des sondages, c'est intéressant de prendre directement le pouls des Français comme ça au fil de nos reportages et de voir que finalement, ils sont très, très indécis et sceptiques aussi sur l'éventuelle candidature à sa propre réélection d'Emmanuel Macron, Guillaume Bigot.
Bah d'abord, c'est une véritable coupe. C'est déjà un sondage est discutable, mais là, c'est une véritable coupe et on est vraiment dans une espèce de réserve naturelle des électeurs d'Emmanuel Macron à Paris et dans les grandes villes. Ils sont favorisés par la mondialisation et on n'a pas l'impression de sentir une effervescence, un enthousiasme incroyable. Mais n'oublions pas que La République En Marche, vous avez... Voilà deux éléments dans La République En Marche. Vous avez LR, La République, et puis EM En Marche. N'oublions pas que En Marche, c'est d'abord les initiales d'Emmanuel Macron. C'est en réalité une coquille vide. C'est une structure qui a été créée pour servir de rampe de lancement à un candidat. Donc le socle, on peut dire, idéologique existe, était déjà en main avec le MoDem, c'est la droite orléaniste, déjà en main à l'intérieur de LR. Et l'idée, c'était... Et maintenant, on voit que c'est un peu d'ailleurs dispersé façon puzzle. C'est-à-dire que La République En Marche n'a pas réussi à fonctionner comme un parti. On l'a vu aux européennes, on l'a vu aux municipales, on l'a vu dans les élections qui ont suivi, pas d'élus. Donc il n'y a pas beaucoup de militants, il y a très peu d'élus. Il n'y a même pas tant que ça de candidats. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah, en réalité, maintenant, ils sont en train de s'éclater. On a déjà vu Aurélien Taché, par exemple, c'est un peu l'aile gauche, un peu écolo, avec ce mouvement Nouveau Démocrate. On a vu un autre parti qui vient de sortir, la Territoire de Progrès, qui est sorti. C'est une aile un peu centriste, centre-gauche. Et on a vu Horizon.
Alors là, c'est tout frais, hein, c'est Édouard voilà. Philippe.
Et on pense que c'est finalement, moi, c'est mon analyse, enfin, c'est des petites tentacules pour faire de la colle. C'est-à-dire que Nouveau Démocrate va pouvoir coller à eux. ELV, Territoires et Progrès va pouvoir coller au PS et Horizon va pouvoir coller à LR. Donc LREM aura des colles comme ça.
Et Éric Revel, c'est compliqué de voir l'offre réelle de La République En Marche avec tous ces partis qui évoquent Guillaume
Bigot. Ça, c'est sûr que c'est compliqué.
Et ça perturbe les électeurs.
C'est plutôt le brouillard épais, mais je pense que c'est un brouillard qui est entretenu en réalité, parce que le président n'est pas encore officiellement candidat à sa réélection. Mais surtout, je pense qu'à 6 mois d'une élection aussi importante que celle-là, pour avril 2022, en fait, on ne peut pas y voir clair. D'abord, parce que vous l'avez dit, l'offre politique, elle n'est pas constituée en réalité réellement. Bon, Zemmour n'est toujours pas officiellement candidat. Emmanuel Macron n'est toujours pas officiellement candidat à sa propre réélection. Du côté des Républicains, bon, bah, on se demande ce qui va sortir du chapeau et quand. On leur souhaite quand même du courage. Mais surtout, on oublie toujours le passé. C'est que dans le passé, vous avez eu à 4 mois, 5 mois d'élection présidentielle, des candidats aussi qui étaient extrêmement hauts. Je pense à Jean-Pierre Chevènement, par exemple, qui était crédité quand il était candidat de 12-14%. Je pense à Philippe de Villiers qui était crédité de 10-11%. Je pense à Arlette Laguiller.
Même Alain Juppé qui était...
Alain Juppé.
De
leur baladure. Donc en fait, il faut se méfier parce qu'à 6 mois d'une élection présidentielle, c'est extrêmement compliqué d'y voir clair. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie dynamique du côté de Zemmour, avec quand même une façon de faire de Zemmour qui est hors du commun. On dit c'est un polémiste, un commentateur, mais en fait, pardon, mais ce qu'il a fait il y a quelques semaines à peine montre que c'est un homme politique plutôt assez aiguisé. Souvenez-vous, il a eu cette petite phrase en direction des électeurs du Rassemblement National. Tout le monde sait au Rassemblement National, a-t-il dit, que Marine Le Pen ne sera jamais élue. C'est une façon pour lui de tirer l'électorat du Rassemblement National. Il a fait la même chose à droite en disant mais en fait, vous êtes les Républicains, vous êtes UMP, mais en réalité, ce que vous voulez, c'est le RPR des années 90. Il a tenté de faire exploser les Républicains. Donc en fait, il dresse sa route de manière assez intelligente et assez fine.
D'où l'obligation pour Emmanuel Macron de se positionner comme on commence à le voir. Il n'y a pas que les tractages, il commence à se positionner lui face à Éric Zemmour.
Ah bah lui, il est en même temps, comme à son habitude, candidat et pas candidat. Il est en même temps président d'exercice et il est en même temps candidat puisqu'il répond aux éléments de langage de maintenant d'ailleurs d'Éric Zemmour, ce qui montre bien le positionnement relativement central d'Éric Zemmour. Il a répondu sur l'Afrique, il a répondu sur la peine de mort, etc. Mais enfin, C'est vrai qu'Éric Zemmour est ce qu'on pourrait appeler un OPNI, un objet politique non identifié. Bon, il a fait comme s'il n'était pas dans le paysage médiatique, mais en fait, il était déjà installé dans le paysage médiatique, mais il n'était pas dans le champ politique. Exactement comme un certain Emmanuel Macron, parce qu'ils sont quasiment au même étiage. Vous rappelez le niveau de sondage d'un Jean-Pierre Chevènement en 2002, oui, oui. On a dit qu'il allait faire turbuler le système. Il n'est jamais monté au-delà de 13%, et c'était bien après 6 mois.
Mais je crois qu'il est fini à un peu plus de 5%, Jean-Pierre.
5,8%. Mais ouais. Là, en l'occurrence, M. Zemmour est déjà au-delà et il est au même niveau qu'Emmanuel Macron lorsqu'il s'est lancé. Et Emmanuel Macron aussi était un autre OPNI, un objet politique non identifié.
Exactement.
Il était soi-disant quelqu'un hors du circuit politique, nouveau arrivé. En réalité, il était déjà dans le circuit politique. Mais par contre, il n'avait pas de parti et il a surgi pour ubériser et disrupter le PS et LR. Et là, qu'est-ce que fait, vous l'avez très bien expliqué, qu'est-ce que fait Éric Zemmour? Il est en train d'ubériser et de disrupter LR d'un côté, ou ce qu'il en reste, et le RN.
D'un mot, sur ce qu'on voyait sur les tracts, c'est 5 ans de plus. Est-ce que c'est risqué comme titre?
5 ans de plus, c'est la durée d'un quinquennat normal. Donc s'il est réélu, il fera...
Donc ça veut dire qu'il va s'appuyer aussi sur son bilan.
Oui, alors il va s'appuyer sur son bilan. Mais moi, ce que je note quand même dans toute cette petite affaire, c'est que je pense que Emmanuel Macron et La République En Marche, ils font un calcul très simple. Ils se disent, on a tout fait pour essayer, et les sondages nous donnaient raison jusqu'à l'arrivée d'Éric Zemmour dans le champ politique, on a tout fait pour être certain qu'on aurait Marine Le Pen au second tour. Et Emmanuel Macron se faisait fort, après l'expérience précédente, de battre de nouveau la présidente du Rassemblement National. Et là, ils se disent, à tort ou à raison, ils se disent, bon, Marine Le Pen n'est peut-être plus dans le coup. Bon, si c'est Éric Zemmour qui porte les mêmes idées, eh bien, faisons tout pour avoir Éric Zemmour au second tour. Et Emmanuel Macron se dit de la même manière, je le battrai assez facilement. Voilà pourquoi, vous avez raison, voilà pourquoi, en fait, tous les thèmes que met sur la table Éric Zemmour sont repris maintenant par le président de la République, candidat potentiel, parce qu'il fait ce calcul-là. Il se dit, au second tour, si c'est lui et pas elle, de la même manière, je le battrai. Mais, à mon avis, le calcul est plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les thèmes que met sur la table Éric Zemmour, l'immigration, la violence, l'autorité, dont je parle dans mon livre, en fait, tous ces thèmes-là, ce sont les thèmes centraux qui parlent au quotidien des Français. On n'est plus dans « il faut baisser le niveau de la dette », même si c'est très important.
Enfin, le sujet numéro un, c'est quand même la question du pouvoir d'achat, quand on pose la question aux Français, qui revient vraiment devant tout.
Oui, la question du pouvoir d'achat, si vous voulez. Mais vous voyez bien aujourd'hui que... Et c'est très marrant, parce qu'en général, quand la gauche arrive au pouvoir, elle fait des grandes réformes sociétales. On parlait de la peine de mort il y a 40 ans, grande réforme sociétale de François Mitterrand. On en pense ce qu'on veut, mais voilà. François Hollande, c'est le mariage pour tous. D'une certaine manière...
C'est pas la gauche, c'est les notables qui ont fait ça.
Oui, alors vous appelez ça les notables, mon cher ami, mais moi j'appelle ça des réformes sociétales. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, et c'est finalement la force d'Éric Zemmour, il a mis sur la table des thèmes qui étaient des thèmes tabous parce que portés par la
droite
par le Rassemblement national, mais en fait ce sont des thèmes que les Français vivent au quotidien. Et d'une certaine manière, peut-être que l'électorat bourgeois ne parle plus suffisamment aux Français, mais en mettant ces thèmes sur la table, il me semble qu'Éric Zemmour parle directement au quotidien des Français. Le pouvoir d'achat, oui, mais aussi la montée de la violence dans ce pays, mais aussi la question de l'immigration. On voyait Darmanin tout à l'heure nous dire il faut signer un traité avec la Grande-Bretagne. Mais vous savez de quoi nous menace le gouvernement britannique en ce moment? Il menace la France de pushback, c'est-à-dire de repousser les bateaux qui partent de France avec des migrants à l'intérieur et qui accostent sur les côtes britanniques pour les remettre en France. On en est là. On en est là quand même. C'est un sujet important.
Guillaume Bigot, pour conclure.
Je pense que la force de déflagration d'une candidature Zemmour est plus importante que celle de la candidature Macron en matière de disruption, on va dire, vis-à-vis d'un ce qu'on pourrait appeler un système en place, c'est-à-dire une alternance qui finalement aboutit à suivre des mêmes lignes directrices politiques depuis 30 ou 40 ans. Emmanuel Macron a tenu ce discours, mais en réalité, il a continué et accéléré cette politique. Et donc, il y a forcément une déception. Lui, Éric Zemmour, il tient lui aussi un discours de rupture vis-à-vis de la classe politique, de style, de ton, de façon de faire, etc. Mais surtout, une rupture dans le contenu. Et là, pour le coup, ça peut faire beaucoup plus mal, en tout cas,
encore pas candidat et qu'on n'a pas l'intégralité
de son
programme.
Alors même qu'il ne l'est pas et alors même qu'il n'a pas encore de programme. D'ailleurs, c'est un autre parallèle qu'on pourrait faire avec Emmanuel Macron, qui a quand même gardé sous le coude son programme pendant très longtemps avant de l'installer.
Merci beaucoup, Guillaume Bigot, politologue. et Éric Revel. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître, Fenêtre de tir, aux éditions Ring. Merci à tous les deux. Dans un instant, escapade à Chantilly, Vanessa Zah nous fera découvrir cette superbe commune de l'Oise qui est devenue aujourd'hui la capitale du cheval.
La matinale week-end, CNews, Europe 1, Isabelle Moreau.
Une spécialiste de l'évasion nous rejoint comme tous les dimanches. Bonjour Vanessa Zah.
Bonjour Isabelle.
Journaliste Europe 1, évasion, escapade.
Escapade culturelle.
Exactement, vous nous emmenez dans l'Oise à Chantilly avec deux belles actualités ce week-end.
Oui, parce qu'en ce moment, il y a le rendez-vous incontournable des journées des plantes au domaine de Chantilly hein, qui soulève donc des foules à chaque édition. Ça se tient jusqu'à ce soir. Le thème de cette année, c'est l'automne est une fête.
En plus, il fait beau,
profitez-en, les couleurs vont être magnifiques. Et double actualité, il y a en ce moment un très beau spectacle qui s'intitule « Il était une fois les grandes écuries » qui se tient jusqu'au 1er novembre. C'est un spectacle qui retrace les 300 ans de ce bâtiment assez exceptionnel. Ce sont les écuries alors elles-mêmes qui se racontent, c'est une narration. Elles racontent cette épopée, mais elles racontent aussi tous les personnages qui ont fasciné l'histoire de ces écuries, façonné et tous ces grands personnages historiques qui ont participé à faire de Chantilly la capitale du cheval. C'est très bien scénographié. Vous avez 17 tableaux qui défilent devant vos yeux avec des cavalières en costume, des chevaux, des voltigeurs. Enfin, c'est très, très bien ficelé et très intéressant.
À qui doit-on la création de ces grandes écuries, Vanessa ?
Alors, à Louis-Henri de Bourbon, que vous connaissez tous sous le nom du prince de Condé. C'était le 7e prince de Condé. Il était passionné de cheval, à tel point que la légende dit qu'il aurait voulu se réincarner en cheval. Il croyait, vous l'avez compris, à un béton psychose. Hein. Et alors, il décide de créer ces écuries qui étaient destinées au départ à la chasse à cour. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette construction, c'est la dimension moderne, avant-gardiste pour l'époque. Il fait appel à des hippiatres pour avoir une écurie saine et même un espace.
Hippiatre, c'est vétérinaire pour les chevaux.
Les vétérinaires, exactement, qui s'occupent des chevaux. Et ils vont créer aussi un espace pour isoler les chevaux malades. Voilà, ils y pensaient déjà à l'époque. Et autre nouveauté, c'est qu'ils construisent les écuries en dehors du château, ce qui en fait un véritable palais pour les chevaux.
Voilà. Alors, comment Chantilly est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui vraiment la capitale du cheval ? Il n'y a quand même pas que les grandes écuries qui ont contribué à ça.
Non, mais alors, en fait, finalement, quand on regarde, c'est assez simple. Parce que cette capitale, on la doit au patrimoine finalement naturel et surtout aux personnalités qui ont vu évidemment le potentiel qu'il y avait. Il y a un sol sablonneux, donc parfaitement adapté aux jambes fragiles des purs sangs. Une immense pelouse qui va inspirer d'ailleurs, pour la petite anecdote, trois gentlemen au 19e siècle qui vont se lancer le pari de galoper justement de l'orée de la forêt jusqu'aux grandes écuries. Et là, on se rend compte que c'est tout à fait possible d'héberger un hippodrome. Et un an après, il sort de terre, il est bâti par le duc de Mal et son frère surtout. C'est surtout son frère en fait qui s'occupait de cet aménagement. Et puis un élément naturel mais central, en fait la forêt de Chantilly.
Tout simplement
pourquoi ? Parce que le Grand Condé avait demandé à Le Nôtre faire des percées. Et donc il y a 120 km de pistes de sable, il y a un carrefour destiné à quoi à l'époque ? Eh bien à suivre en attelage la chasse. Et cette forêt est devenue donc le centre d'entraînement de tous les chevaux de Chantilly dès le 19e. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que c'est devenu l'un des plus grands centres d'entraînement au monde. Il y a presque 2800, 3000 chevaux pur sang qui sont entraînés chaque
c'est
jour.
C'est colossal. Hein.
Colossal. Voilà un petit peu pour résumer. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous mets toutes les infos sur le site europe1.fr avec les infos pratiques et puis des bonnes adresses.
Mais merci infiniment pour ce tuyau, Vanessa Zah. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et tout de suite, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce dimanche avec Elisa Lukavski.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
C'est à vous, Elisa, pour les principaux titres de l'actualité. Il est 7h30 tout juste.
Un élu agressé, ça s'est passé vendredi en banlieue parisienne, à Ivry-sur-Seine, hein, exactement. Et c'est l'adjoint du maire de la ville hein, qui a été visé alors qu'il sortait d'un match de handball. Le maire déplore un cycle de violence entre les jeunes des différents quartiers de sa ville. Valentine Leboeuf, Solène Boulan et Osley Munal.
C'est aux abords d'un gymnase que l'adjoint chargé de la jeunesse à la mairie d'Ivry-sur-Seine a été agressé. L'homme âgé d'une trentaine d'années sortait d'un match de l'équipe locale de handball lorsqu'il est pris à partie par une dizaine d'individus. D'abord frappé derrière la tête, il reçoit plusieurs coups de couteau dans la cuisse. Pour les habitants du quartier, l'incompréhension.
ces personnes-là, c'est ces personnes qui nous représentent, ces personnes qui font en sorte que tout se passe bien dans la ville, et on les agresse. Surtout qu'il y a d'autres moyens que la violence. Tout passe par le dialogue.
La violence, en ce moment, voilà, je la trouve un petit peu... Ça fait peur.
L'élu a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Son collègue également présent a été légèrement blessé. Angelo Bruno, secrétaire national Île-de-France du syndicat Unité SGP Police, déplore un manque de fermeté vis-à-vis des jeunes de certains quartiers.
Il faut des peines fortes pour sanctionner ces jeunes qui pour eux, de toute manière, c'est un jeu. La délinquance, elle augmente dans la dureté.
Une cellule psychologique a été mise en place à la mairie et une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Vive tension hier, en marge du déplacement d'Éric Zemmour en Corse. Il était à Ajaccio dans le cadre de sa tournée promotionnelle et juste avant la réunion qu'il tenait sur le port, des altercations entre ses soutiens et des personnes hostiles à sa venue ont éclaté. Les CRS ont dû intervenir. Le discours a finalement pu se tenir. Dans la foulée, Éric Zemmour s'est exprimé sur ses échauffourées.
Je ne suis ni raciste, ni homophobe, ni que sais-je encore. Je suscite des oppositions et je suscite un enthousiasme qui n'existe pas ailleurs, vous l'aurez remarqué. Voilà, c'est tout. Les oppositions, vous savez, c'est le vieux monde qui s'écroule. Les oppositions, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de prise sur le pays. Et c'est ça qui les rend fous et hystériques et intolérants.
Éric Zemmour, pas encore déclaré candidat, mais il ne cesse de progresser dans les sondages. Selon le dernier, il devancerait même Marine Le Pen avec 17% des intentions de vote contre 15% pour la candidate du RN. Alors que se passerait-il pour le camp national si Éric Zemmour venait à se présenter? Marion Maréchal Le Pen s'est exprimée sur cette hypothèse hier sur notre antenne dans « Il faut en parler ».
Il est évident qu'en ayant deux candidatures plutôt qu'une, ça ne facilite pas les choses.
Quelqu'un devrait se retirer?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être faudra-t-il se poser la question à un moment donné de savoir qui est le mieux placé. Voilà, bon, ça, la campagne, le temps le dira, mais il est évident qu'en ayant deux candidatures, les choses m'apparaissent un petit peu plus compliquées. Je crois surtout que si ce camp veut gagner, il y a absolument un impératif à avoir qui est celui de préparer dès la campagne la manière dont le pays sera gouverné.
Parmi les rendez-vous à suivre sur nos antennes, à 8h40, Jean-Pierre Elkabbach reçoit Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. À Toulouse, le conseil départemental fait le pari de la mixité sociale, quitter les écoles de certains quartiers de la banlieue toulousaine pour des établissements plus favorisés. Des collégiens ont été encouragés à le faire avec à la clé de ce changement des résultats qui s'améliorent nettement. Reportage sur place de Jean-Luc Thomas.
Quand je suis venue au collège, j'avais plus de bonnes notes et avec les profs, ils nous expliquent encore mieux.
Lina est en cinquième, son école primaire était dans un quartier sensible. Depuis un an, elle étudie dans un collège favorisé. Fabien Baucher en est le principal adjoint.
Ce qu'on peut voir, c'est que les élèves s'intègrent complètement dans l'établissement scolaire, prennent leur place. Donc on a une intégration qui se met bien en place, on a une émulation positive. Un climat de travail serein.
En 2017, le département de Haute-Garonne relève le défi de la mixité sociale dans tous les collèges. 1140 enfants du Grand Mirail, par exemple, sont réaffectés dans d'autres collèges que celui de leur quartier. Cela en accord avec les parents et Georges Méric, le président du département.
Si vous laissez le collège au milieu du quartier qui est ghettoisé, le collège, par la carte scolaire, le collège est aussi ghettoisé. Donc nous avons déplacé les collèges de 2-3 kilomètres.
L'éducation nationale a aussi fait des efforts. Classe de 25, recrutement de professeurs supplémentaires. Mostafa Fourard est le recteur de l'Académie de Toulouse.
Il va falloir aller vers cette mixité sociale, je dirais, dans tous les établissements, parce que c'est le choix que nous faisons pour notre société.
Ce programme de 56 millions d'euros autour de la mixité sociale est unique en France.
Les plus matinaux d'entre vous l'ont peut-être suivi sur Canal+, le combat de légende entre Tyson Fury, le Britannique, et l'Américain Deontay Wilder, qui s'est soldé par une victoire de Tyson Fury au terme d'un combat acharné. Tyson Fury est parvenu à mettre Wilder KO à la 11e reprise. Il s'agit de la deuxième victoire de Fury face à l'Américain après celle de l'an dernier, un succès qui lui permet de conserver son titre de champion WBC des poids lourds. Et puis une note musicale pour terminer avec l'anniversaire d'un grand nom de la chanson française, Jean-Jacques Goldman, qui fête demain ses 70 ans. À cette occasion, ses stars diffusent demain soir à 22h50 un documentaire sur l'exceptionnelle carrière de l'artiste et ses 40 ans de succès. Extrait.
Je ne pensais pas que Je te donne aurait autant de succès. J'étais déjà étonné qu'elle soit sur le 10. Maintenant, elle est un peu intemporelle. Elle est même enseignée dans les écoles, donc ça, je suis assez fier de ça. Voilà, c'est une chanson qui reste parmi, je crois, les 5 chansons préférées des Français.
70 ans demain, Jean-Jacques Goldman, incroyable, 70 ans et au moins 70 tubes également. Merci beaucoup Elisa Lukaski, on vous retrouve pour le prochain journal à 8h dans la matinale week-end. La campagne s'emballe et comme souvent en période préélectorale, les sondages donnent le tempo et comme souvent aussi on se pose la question de savoir dans quelle mesure on peut se fier à ces enquêtes qui partent tous azimuts. On va en parler avec notre invité Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour à vous Arnaud, mais d'abord je voudrais qu'on fasse un point sur ces fameux sondages avec vous Emma Guessel.
Prudence avec les sondages, car ils ont parfois été trompeurs à 6 mois de la présidentielle. Et d'ailleurs, dans les instituts de sondage, on insiste sur la notion de marge d'erreur. Car un sondage offre des indications sur les rapports de force à un instant précis, ce qui explique que d'une enquête à l'autre, les chiffres ne soient pas les mêmes. On dira donc plutôt que les sondages permettent de donner une dynamique. Et on analysera par exemple la percée d'Éric Zemmour, qui était à 5% avant l'été et qui passe aujourd'hui dans une récente enquête devant Marine Le Pen. Mais là aussi, prudence, car à 6 mois de la présidentielle, nous ne sommes pas en possession de toutes les données. Éric Zemmour, Emmanuel Macron ne sont pas encore officiellement déclarés. Par exemple, les Républicains n'ont pas encore non plus leur candidat. Bref, nous n'avons donc pas la liste complète des prétendants à la présidentielle. Et puis, rappelons un simple exemple. En octobre 2017, il y a donc tout juste 5 ans, Emmanuel Macron n'était pas encore officiellement candidat.
Merci beaucoup Emma. Alors Arnaud Benedetti, avec tout ce que vient de nous dire Emma, peut-on imaginer que les sondages de ce mois d'octobre vont donner une réelle tendance pour ce qui va se passer dans 6 mois, jour pour jour ?
C'est extrêmement difficile parce que, comme ça a été rappelé, les sondages, en effet, donnent une photographie à un instant T. Et la grande difficulté pour les sondages, c'est de pouvoir estimer le niveau de participation qui sera celui du vote au moment où le vote se produira. On a vu, par exemple, lors des dernières régionales, que les sondages avaient, d'une certaine manière, surestimé le vote du Front National en fonction d'un niveau de participation qu'ils avaient mal évalué et mal estimé, parce que c'est certainement la donnée la plus difficile à estimer pour les sondages. Donc aujourd'hui, en effet, les sondages donnent une tendance. Ils ont un effet sur le jeu politique, ils ont un effet sur l'opinion, ils ont un effet sur les prises de position, mais il reste malgré tout encore des instruments tout à fait incertains pour, disons, prévoir ce que sera la réalité électorale dans 6 mois.
Donc si ces sondages ont un effet, est-ce que ce sont eux qui donnent cet effet ? Zemmour, est-ce que ce serait un miroir grossissant ?
Alors, si vous voulez, le problème du sondage, c'est que le sondage, comme je vous l'ai dit, il photographie, mais il participe aussi à la construction de l'opinion publique. C'est toute la difficulté, en fait, de ce type d'instrument. Indéniablement, quand même, quand on regarde de près les études d'opinion qui sont réalisées depuis maintenant, disons, le début septembre, ce qu'on note quand même dans les sondages, c'est que la tendance qui estime, disons, la courbe de potentiel électoral d'Éric Zemmour est une courbe qui est, de toute façon, une courbe en ascension, clairement. Et on voit en plus les catégories où il est en train de, aujourd'hui, pouvoir prendre un certain nombre d'électrices et d'électeurs. Mais tout ça reste, encore une fois, très fragile. Je rappellerai un petit exemple historique. En octobre 2014, ou novembre 1994, Jacques Chirac était estimé à 14 ou 15% des intentions de vote. Très loin derrière Édouard Balladur. Et vous savez ce qu'il en a été à partir du mois de février 1995. Les courbes se sont croisées. Donc, encore une fois, une très grande prudence doit nous animer dans nos commentaires et dans nos observations, même s'il faut quand même prendre au sérieux ce que disent les sondages.
Oui, et puis il faut rappeler que les sondeurs prennent eux-mêmes aussi beaucoup de précautions. Ils ne demandent leur avis qu'à des gens qui sont sûrs d'aller voter. Et on sait que beaucoup de Français, on le voit dans nos reportages ce matin, dans la matinale week-end, beaucoup de Français se décident au dernier moment. Ça, c'est une constante.
Alors, d'abord, vous avez aujourd'hui un phénomène qui est nouveau par rapport à la structuration du vote d'il y a 30 ans, c'est que l'opinion publique est beaucoup plus volatile qu'elle l'était. Et ensuite, il y a un autre sujet, c'est que si vous voulez, en effet, on prend dans le sondage ceux dont on est certain qu'ils vont voter. C'est-à-dire sur une échelle de 0 à 10, un certain nombre d'instituts de sondage vont finalement prendre dans leurs estimations que ceux qui assurent qu'ils sont certains d'aller voter le jour du vote. Et ils enlèvent tous ceux qui sont pour l'instant incertains. Vous comprenez que dans ce type d'estimation, vous prenez ceux qui ont la relation la plus intense à la politique, qui sont les plus politisés, ce qui explique parfois en effet les différentiels entre ces sondages qui sont faits à 6 mois et le résultat de l'élection 6 mois plus tard.
Et puis Emma Guessel nous rappelait que tous les candidats ne sont pas encore déclarés. On ne connaît pas véritablement l'offre politique. Est-ce que c'est difficile de poser des questions dans ces cas-là pour obtenir des chiffres plausibles dans les sondages?
Ben oui, en effet, on voit bien que du côté des Républicains, la désignation aujourd'hui n'est pas totalement actée. Emmanuel Macron n'est pas officiellement candidat. Éric Zemmour lui-même, d'ailleurs, à ce stade, n'est qu'un candidat potentiel, puisqu'il ne s'est pas explicitement déclaré. L'offre, en tout cas politique, n'est pas stabilisée par rapport à ce que nous allons vivre à partir du mois de février ou du mois de mars 2022. Donc, la réalité, c'est que les opinions publiques se cristallisent de plus en plus tardivement. On sait très bien qu'un certain nombre de nos compatriotes vont décider de leur choix pour l'élection présidentielle dans les toutes dernières semaines de cette élection, voire parfois même dans le dernier week-end, dans les derniers jours, qui a des effets de surprise ensuite sur les résultats.
Merci pour cette analyse, Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et je rappelle, comme vous le faisiez très justement, qu'il reste 6 mois, c'est court et c'est long à la fois, jusqu'au premier tour, le 10 avril 2022. Merci beaucoup. À suivre votre chronique cinéma. Il n'y a pas que James Bond dans la vie, figurez-vous. Il y a aussi de très bons films français que va nous recommander Laurie Choleva.
La matinale week-end, CNews Europe 1. Isabelle Moreau.
Place à votre chronique cinéma dans la matinale week-end avec vous, Laurie Choleva. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez concocté une petite sélection de films à aller voir, peut-être un peu en dehors de James Bond.
C'est ça, parce que j'allais dire, il y a le géant James Bond et puis il y a des petits films qui se battent avec moins de gadgets, mais parfois autant de charme, donc c'est bien d'en parler.
On commence avec Tralala.
Et oui, d'ailleurs on aime bien le titre. Nouveau film des frères Larrieux avec Mathieu Amalric, c'est leur 5e collaboration. Il y a aussi Josiane Balasco, Mélanie Thierry ou encore Mai Wen au casting. Alors comme toujours avec les frères Larrieux, on est surpris. Tralala, c'est vraiment un joli film musical, plein de fantaisie. Mathieu Amalric joue donc Tralala, parce que c'est un personnage, un chanteur des rues, un vagabond qui perd son appartement et qui va croiser la route d'une demoiselle, une charmante demoiselle, qui va lui dire « Surtout, ne soyez pas vous-même » et avant de disparaître en lui laissant un briquet sur lequel il y a marqué « Lourdes ».
C'est Pat, c'est mon fils, il est de retour.
Un autre homme?
Vite, quelques indices. Si dans tes baskets, tu veux que je me glisse, je suis moi. Je suis toi, je suis cool. Quand t'es cool,
j'en suis sûre. T'es pas pâte. Qui que tu sois, je te lâcherai pas. Tant que j'aurai pas éclairci ton mystère.
Mélanie Thierry, magnifique comme d'habitude, j'ai envie de dire. Un film qui ressemble vraiment à un rêve. On suit Mathieu Amalric, donc à Lourdes, dans son périple, dans sa quête identitaire. Il va croiser plein de personnages. On est loin de la comédie musicale traditionnelle, vous avez pu le constater. Mais c'est vraiment un film poétique avec des moments suspendus, des dialogues incroyables. Franchement, je vous invite à le découvrir.
Tralala. Tralala, on va la découvrir, tralala. Rien pour dire le titre, c'est sympa.
C'est ça.
Et puis la nièce d'Isabelle Adjani est au cinéma cette semaine.
Oui, elle est remarquable. Elle joue dans un film qui s'appelle Cigare au miel. C'est un très joli film où elle joue aux côtés d'Amira Kazar, un film sur les origines, sur l'émancipation. C'est l'histoire de Selma qui a 17 ans, qui vit à Neuilly avec ses parents dans un univers plutôt bourgeois. Elle est franco-algérienne et puis elle cherche sa voie entre les injonctions contradictoires de ses parents et puis sa vie d'étudiante dans une école de commerce.
Tu viens de passer l'oral?
Ouais. Et toi, t'es en quelle année?
En dernière année.
Ça fait qu'il nous reste que quelques mois pour vivre le grand amour.
J'ai sacrifié ma carrière pour que tu réussisses brillamment.
Je t'ai jamais rien demandé, moi.
Quoi, j'ai jamais rien demandé?
Tu ne cries pas, les voisins n'ont pas besoin de t'entendre.
T'as peur de ce que pensent les autres? Les Français, c'est ça?
Je comprends, comme dévergondé.
Tu veux que ton père nous quitte?
C'est pas bien. C'est pas bien.
Tu sais très bien que ton père et moi, on est contre les mariages arrangés.
Vous m'arrangez quand même une rencontre, là, tout de suite.
Un film coproduit par les frères Dardenne, c'est un premier long métrage de Camille Reynouze qui s'est inspiré de sa propre adolescence pour dresser donc ce portrait de jeune fille qui découvre son corps, qui va découvrir la sensualité, la sexualité. C'est d'ailleurs un film qui rappelle un petit peu celui qui est sorti il y a quelques semaines, Une histoire d'amour et de désir. C'est vraiment un joli film. Et Zoé Adjani, bon bah voilà, elle porte un nom gage
lourd
de
à porter,
talent.
Mais finalement elle s'en sort très bien.
Elle s'en sort très très bien. Vraiment.
Zoé Adjani à découvrir donc sur vos écrans. Merci beaucoup Laurie pour cette
Avec
sélection.
Plaisir.
C'était la chronique cinéma dans la matinale week-end.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Et c'est maintenant Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, qui nous rejoint. Bonjour Louis.
Bonjour Isabelle.
On revient avec vous sur ce tout nouveau parti Horizon. Édouard Philippe a beau clamer sa loyauté à Emmanuel Macron, pourquoi créer un parti alors qu'il y a quand même La République En Marche, un parti présidentiel qui existe déjà?
Vous posez une bonne question, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Édouard Philippe, il n'a jamais été adhérent de La République En Marche. Et donc, il est en train de créer un vrai rapport de force avec le chef de l'État. Il le dit d'ailleurs ce matin dans le journal du dimanche, la réélection d'Emmanuel Macron n'est pas acquise. En fait, il anticipe deux cas de figure. Première option, Emmanuel Macron est réélu en 2022. Et dans ce cas, il compte avoir un groupe parlementaire suffisamment important pour être indispensable. C'est-à-dire, très concrètement, faire en sorte qu'aucune loi ne puisse être votée sans son accord, ça veut aussi dire qu'en cas de désaccord sur un texte, eh bien ce sera très compliqué pour le prochain gouvernement. En clair, Édouard Philippe veut être en capacité d'exercer un droit de veto. Deuxième éventualité, Emmanuel Macron n'est pas réélu. Dans cette hypothèse, Édouard Philippe aimerait disposer d'un groupe politique puissant, de centre droit, pour lui permettre de préparer son éventuelle candidature à la présidentielle de 2027.
Bon, on sait bien qu'en politique, les relations humaines sont un petit peu spéciales, pour ne pas dire autre chose, mais si on vous comprend bien, si Édouard Philippe fait ça, ça veut dire qu'en vrai, sa relation avec Emmanuel Macron est mauvaise?
Je crois que vous avez bien deviné, vous avez bien compris. On peut même dire en fait que les relations entre les deux hommes aujourd'hui sont glaciales. En fait, les mises en scène récentes ne reflètent absolument pas la réalité. Il n'y a pas de proximité en fait entre les deux hommes. Et Édouard Philippe a sans doute des torts, et de son côté, Emmanuel Macron est très doué pour beaucoup de choses, mais il a un gros défaut. Il n'est pas du tout bon, mais pas du tout en ressources humaines. Il appelle beaucoup les gens qu'il aimerait voir travailler avec lui dans son équipe pour les séduire, et très peu ses anciens compagnons de route. Alors forcément, ça crée des immenses déceptions et parfois des sentiments extrêmement hostiles.
Alors on va revenir sur le plan purement politique. En écoutant le son de cloche officiel des marcheurs et des proches du chef de l'État, on a l'impression qu'Emmanuel Macron voit quand même dans la démarche de son ancien Premier ministre, il la voit d'un bon œil, cette démarche. Il se réjouit d'ailleurs qu'Édouard Philippe continue de siphonner une partie des Républicains dont on sait qu'il aura besoin pour 2022.
Oui, alors ça, ce sont les déclarations côté jardin, parce que côté cour, je peux vous dire que c'est tout le contraire. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron n'a volontairement jamais structuré son propre parti, La République En Marche. En fait, il voulait absolument être certain de ne pas être embêté par des courants, des personnalités qui cherchent à peser, typiquement des personnalités en fait comme Édouard
Philippe.
Exactement. Et quand on regarde en fait ce que son ancien Premier ministre a fait hier, c'est exactement tout ce qu'Emmanuel Macron a toujours refusé. Il crée son parti avec une charte, une ligne assumée de centre-droit, préoccupée par exemple par la lutte contre l'insécurité et les dépenses publiques qui explosent. Hier, on a entendu des citations de De Gaulle, des citations de Nicolas Sarkozy. Pas vraiment une ligne de gauche et encore moins du en même temps. Vous l'avez compris, Édouard Philippe veut peser. Et du coup, un peu inquiet, le chef de l'État a demandé à son fidèle, son protégé, Christophe Castaner, de s'asseoir hier au premier rang du meeting d'Édouard Philippe, entouré de Patrick Mignola, le patron du Modem à l'Assemblée nationale, et d'Olivier Becht, le patron, son homologue en fait, du groupe Agir à l'Assemblée. Un peu pour marquer Édouard Philippe à la culotte, lui montrer que même s'il n'est pas présent, Emmanuel Macron, il a tout compris.
Il est sous haute surveillance, là.
Je peux vous dire que maintenant, tout le monde regarde chacun de ses faits et gestes. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et donc, pour conclure, Emmanuel Macron aura beau dire ce qu'il veut, qu'il se réjouit du fait de ce que fait Édouard Philippe, en réalité, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui. Jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il était seul à décider de tout. Et à partir de demain, en fait, il devra composer avec Édouard Philippe, non pas à l'intérieur du gouvernement comme avant, mais bien à l'extérieur.
Merci beaucoup Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Ça promet et on comprend avec vous que ça risque d'être très long avec ces relations finalement plutôt glaciales.
Oui.
On se retrouve dans la matinale week-end juste après votre météo avec un journal complet. On reviendra sur la tournée chahutée d'Éric Zemmour en Corse avec des échauffourées, notamment à Ajaccio, signe que la personnalité de celui dont on rappelle qu'il n'est pas encore candidat est particulièrement clivante pour les Français. Et puis si la campagne présidentielle ressemble à un marathon, nous parlerons aussi d'un vrai semi-marathon, cette fois les 20 km de Paris. En ce moment, un de nos journalistes nous fera vivre cette 43e édition à laquelle il a vaillamment décidé de participer. À tout de suite.
La matinale week-end, CNews Europe 1. Isabelle Moreau.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end CNews Europe 1. Au menu de cette heure, la chronique politique, on l'a vu, de Louis de Ragnel, pardon, mais on va surtout s'intéresser à notre santé avec le docteur Brigitte Millot. Elle va nous dire qu'il ne faut pas avoir peur de la cortisone, contrairement à ce que l'on croit souvent. Et puis n'oubliez pas, évidemment, votre rendez-vous à 8h40. Jean-Pierre Elkabbach reçoit Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci d'écouter Europe 1, il est 8h. Et j'accueille nos débatteurs du matin avec Guillaume Bigot, courageux pour la deuxième fois sur le ring ce matin.
On aime ou on ne compte pas.
Et Carl Olive, vous êtes maire d'hiver droite de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines. Bienvenue donc à tous les deux. Mais d'abord, le journal, toujours en compagnie d'Elisa Lukaski. On va d'abord regarder les titres de ce dimanche ensemble. Et Éric Zemmour, bien sûr, qui affole les sondages, perturbe la droite et divise les Français à 6 mois de la présidentielle. Celui qui n'est toujours pas candidat bouscule la campagne à l'image de sa personnalité très clivante. Vous verrez que sa visite a été marquée en Corse par des échauffourées à Ajaccio. Nous nous intéresserons aux mineurs non accompagnés, ces jeunes à la dérive qui tombent souvent sous la coupe de réseaux criminels et plongent dans la violence. Des sénateurs viennent d'émettre un rapport pour demander la mise en place d'une vraie politique nationale. Et nous rejoindrons dans notre journaliste tout-terrain, Thibaut Marcheteau. Il va s'élancer comme plus de 20 000 coureurs dans les rues de la capitale et nous faire vivre les 20 km de Paris, dont c'est la 43e édition. Nous sommes donc, Elisa, à 6 mois pile, jour pour jour, du premier tour de l'élection présidentielle et la campagne est lancée.
C'est parti. Hein. Depuis un petit moment déjà, et si Emmanuel Macron n'a pas encore officialisé sa candidature, les équipes de tractage de La République En Marche sont déjà en action. Reportage à Paris de Clémence Barbier et de Francesco Cavelli.
Bonjour madame, le bilan d'Emmanuel Macron. Je vous fais un petit peu de lecture pour le week-end.
Tract en main, Amaury, référent La République En Marche du 17e arrondissement de Paris et d'autres militants.
Vous en avez assez des tracts ?
Tente de convaincre les électeurs.
Alors, c'était une petite modification sur la CSG, mais on est revenu justement sur cette mesure-là.
J'ai pas vu beaucoup la couleur. Hein.
Vous n'avez pas voté ?
Non, je ne vais plus voter, c'est fini. Je suis encore changé d'ici là, mais...
À 6 mois de l'élection présidentielle, difficile pour les Français de choisir son candidat.
Est-ce que le bilan vous a convaincu ? Ben, sur pas mal de choses, oui. Sur l'immigration, non.
J'en sais rien cette année. Je suis quand même moins motivé.
Ce serait une très bonne chose qu'il puisse avoir un deuxième quinquennat.
Le président est en pole position dans les sondages, mais un autre le talonne.
En ce moment, on est accaparé par le Zemmour là aux infos.
De quoi agacer Estelle, adhérente d'En Marche.
Effectivement, on parle beaucoup de Zemmour en ce moment. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas vraiment de proposition. Et donc, alors que nous, on a un bilan.
Les alliés d'Emmanuel Macron restent en ordre de marche tous les samedis. Jusqu'au scrutin en avril 2022.
En déplacement dans le Nord hier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a parlé des questions concernant l'immigration. Il en a profité pour demander au Royaume-Uni la négociation d'un traité sur la question migratoire ainsi que des fonds pour lutter contre le trafic sur les côtes françaises. On l'écoute.
Nous sommes pour un accord européen-Grande-Bretagne, un accord
qui est fondée sur évidemment la réciprocité et la souveraineté de nos deux États, qui règle le problème des demandes d'asile, qui règle le problème des reconduites, qui règle le problème du regroupement familial. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'accord. Et lorsque nous présiderons l'Union européenne au 1er janvier, le président de la République m'a chargé de pousser encore l'idée de cet accord. Et nous attendons depuis maintenant un an la réponse du gouvernement britannique.
Et je vous rappelle notre rendez-vous sur notre antenne à 8h40, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Il accueille ce matin Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Une scène très violente qui fait énormément réagir. Ça s'est passé dans une école.
Oui, la scène, c'est celle d'un élève qui ne respecte pas l'autorité de son enseignante alors qu'elle lui demande de rester en classe. En lui bouchant la sortie, eh bien, il ne l'écoute pas, il la bouscule violemment et il quitte la salle. Ça s'est passé à Comblaville, en Île-de-France. Le syndicat national des lycées et collèges espère une sanction grave contre l'agresseur et l'élève qui l'a filmé. L'Académie de Créteil a déposé une plainte. À Toulouse, le conseil départemental fait le pari de la mixité sociale à l'école. Les élèves sont quittés les écoles de certains quartiers pour des établissements plus favorisés. À la clé de ce changement, des résultats qui s'améliorent nettement. Les premiers élèves à avoir expérimenté cette mixité sociale ont passé le brevet en juin dernier. Le taux de réussite à l'examen a progressé de 13%. On écoute le principal d'un de ces collèges à avoir accueilli des nouveaux élèves.
Ce qu'on peut voir, c'est que les élèves s'intègrent complètement dans l'établissement scolaire, prennent leur place. Donc on a une intégration qui se met bien en place, on a une émulation positive, un climat de travail serein.
Et puis on parle du 20 km de Paris qui se court aujourd'hui.
Oui, c'est la 43e édition de ces 20 km de Paris. 11 000 coureurs sont attendus dans les rues de la capitale. Le départ aura lieu dans un petit peu moins d'une heure maintenant, à 9h exactement. Et puis on retrouvera normalement tout à l'heure notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau qui courra ces 20 km, qui nous parlera de l'ambiance. On imagine que là, on en est au dernier préparatif, Isabelle.
Exactement, il est en train de se préparer, de s'échauffer.
Donc,
exactement. Une 43e édition qui est très attendue parce que vous savez que celle de l'année dernière avait été annulée pour cause de Covid. On retrouvera, ce sera certainement notre fil rouge ce matin, Thibaut Marcheteau, dès qu'il sera prêt à nous parler juste avant de s'élancer pour cette édition des 20 km de Paris. Merci beaucoup, Elisa. Prochain point complet sur l'info à 8h30. Tout de suite, un coup d'œil sur le temps de ce dimanche avec vous, Claire Delorme. Et les gens vont pouvoir s'élancer sous un beau soleil pour ces 20 km de Paris.
Exactement, du soleil pour quasi tout le monde, à l'exception quand même de ce matin où il y aura un petit peu de brumes et brouillards. Mais ne vous inquiétez pas, ça va très vite se dissiper pour une très belle après-midi. Regardez-moi ça, les nuages auront même tendance à se morceler vers les bords de Manche. Alors, ils seront certes un petit peu plus menaçant en direction des Pyrénées ainsi qu'en direction des Alpes et de la région PACA, avec en prime une toute petite averse, mais rien de bien méchant. Pour les températures, l'après-midi, elles sont stationnaires par rapport au jour précédent, 18 degrés, c'est ce qu'on aura donc pour Paris, 21 degrés à Bordeaux, 20 degrés du côté de Nice, 19 degrés du côté de Brest et quand même encore 23 degrés, que ce soit pour Perpignan ou pour Ajaccio.
Merci Claire, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
8h06 exactement, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la matinale week-end. C'est l'heure de notre débat avec Guillaume Bigot, politologue, et Carl Olive, maire d'hiver droite de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines. Rebonjour à tous les deux. Alors on a évoqué les 20 km de Paris, mais on va parler d'un autre marathon qui attend ceux qui rêvent de l'Elysée. Il reste 6 mois avant le premier tour, le 10 avril 2022. D'ores et déjà, la campagne s'emballe avec un élément perturbateur, Éric Zemmour. Emmanuel Macron commence à se positionner par rapport à lui. On va en parler avec vous tous les deux. Mais d'abord, ce reportage signé Özlem Ünal.
Échauffourée d'un côté, acclamation de l'autre. Une chose est sûre, Éric Zemmour ne laisse pas indifférent. Venu en Corse faire la promotion de son livre, le potentiel candidat ne veut pas se laisser intimider. À ceux qui le critiquent, il répond.
Je suscite des oppositions et je suscite un enthousiasme qui n'existe pas ailleurs, vous l'aurez remarqué. Voilà, c'est tout, les oppositions, vous savez, c'est le vieux monde qui s'écroule.
Aimé ou détesté, il n'en finit pas de monter dans les sondages, au point de se qualifier au second tour, lui, qui n'est même pas encore candidat. Pourtant, dans le même temps, c'est la personnalité politique la plus rejetée des Français, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Arnaud Benedetti, politologue, explique cette ambivalence.
Il faut tout à fait dissocier une cote de popularité
d'une courbe électorale. Lionel Jospin, en 2001, était assez populaire dans les sondages. Il n'a pas pu se qualifier un an plus tard au second tour.
Hier à Ajaccio, c'est la première fois qu'il tenait une conférence en extérieur. Reste à savoir si Éric Zemmour, au vu des tensions, va renouveler l'expérience.
Carl-Olive, est-ce que vous avez été surpris? On le voit flotter un peu sur un nuage, Éric Zemmour, depuis quelques temps, des sondages qui le donnent très haut. Et là, premier quoi que j'allais dire, ces échauffourées à Ajaccio, est-ce que ça vous surprend?
Au fur et à mesure, on va se rapprocher de la candidature officielle d'Éric Zemmour, d'entendu qu'elle pourra avoir lieu d'ici trois semaines.
Vous y croyez à sa candidature?
Tel que c'est parti, à un moment donné, quand vous êtes dans la seringue, c'est compliqué de faire marche arrière. Les emmerdes vont commencer pour lui, et on le voit bien. Mais c'est le reflet de la société. La société se radicalise, la rue se radicalise, les humoristes se radicalisent, avec le très mauvais exemple qu'on a vu hier. L'éducation se radicalise. Je viens de voir sur vos images ce jeune qui vient frapper, comme si c'était normal, un professeur. Et donc la politique se radicalise. Et on le voit bien, première séquence en plein air, et on est déjà finalement à se frapper les uns les autres. On se frappe français les uns les autres. Là, on est quasiment sur des faits d'incivilité de français entre eux. Ça en dit long sur, effectivement, ce que peut présenter M. Zemmour. Mais vous savez, quand vous entendez Éric Zemmour dire que finalement Pétain a sauvé la France en protégeant les juifs français.
Il n'a jamais dit une chose pareille.
Les juifs étrangers aux Allemands.
Guillaume
Bigot, juste après.
Évidemment, ça, on ne peut aller finalement que dans le mur. Et ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on le dit. À un moment donné, c'est bien de marcher sur l'eau, mais on est vite rattrapé par la patrouille et par la réalité du terrain.
Guillaume Bigot, on va aller dans le mur.
Simplement, pour débattre, il faut quand même qu'on assène des choses qui sont vérifiées. Moi, je suis premier critique des propos d'Éric Zemmour sur le maréchal Pétain et le rôle, disons, de l'État français dans la sauvegarde des juifs dits français et cette espèce de troc assez ignoble entre les juifs étrangers et les juifs français. Il n'a jamais dit une seule seconde que le maréchal Pétain avait sauvé la France. Enfin, c'est complètement délirant. Mais enfin, revenons là-dessus. Je pense que là, disons, la nomenclature, ce qu'on pourrait appeler finalement les classes dirigeantes ont trouvé une image, enfin, qui peut interrompre la dynamique. Je m'explique. C'est-à-dire que le discours d'Éric Zemmour consiste à dire, et finalement, il y a quelque chose que tout le monde a à l'esprit, mais que personne ne veut nommer, c'est un risque d'affrontement et de guerre civile. Vous savez, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, au moment de quitter ses fonctions, qui a dit « les gens vivent côte à côte, ils vont vivre face à face
». Il illustre pleinement, et c'était le cas notamment hier à Ajaccio, ce qu'on a vu avec ses
lui porte ce discours en disant « il faut tout faire pour éviter ça ». Il y a des gens qui l'agressent. Et donc, ça y est, on peut dire que les défenseurs du statu quo ont des images en disant « Regardez, il est tellement clivant qu'il crée l'affrontement ». Mais en réalité, il crée l'affrontement, il est attaqué par des gens. Il faut, l'honnêteté oblige à dire tout de même que le président Macron, qui se déplace pas sans un service de sécurité considérable, c'est le chef de l'État en exercice, c'est tout à fait normal, dont tous les déplacements sont parfois un peu Potemkin, hein, on sélectionne soigneusement les gens qui peuvent l'approcher, arrive quand même à se prendre des gifles. Et puis on a vu la séquence des Gilets jaunes, la séquence des Black Blocs, on a vu cet ensauvagement terrible. Donc malheureusement, c'est l'ensemble du personnel politique. Mais lorsqu'il s'agit d'Éric Zemmour, évidemment, là, ça devient les images que nous attendions tous, trois petits points. Et je pense que par ailleurs, il y a un autre leurre qui est tiré, bien évidemment, c'est la mise sur orbite du parti politique d'un autre OPNI, objet politique non identifié. Cette fois-ci, c'est M. Édouard Philippe qui lance un parti qui s'appelle Horizon, qui pourrait s'appeler Joli Soleil, Ciel Bleu, Aurore, Aube, enfin on ne sait pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur.
Carl-Olive, voilà. Une réaction quand même à ce que dit Guillaume Bigot.
Mais je dis souvent ici sur le plateau et affectueusement à l'endroit de Monsieur Bigot que tout ce qui est excessif est insignifiant.
On est en plein dans l'excès dans cette campagne, hein. Il y a beaucoup de choses insignifiantes.
On est bien d'accord, Madame Moreau. Simplement, quand encore une fois on veut se présenter à une élection présidentielle, c'est bien pour rassembler, c'est pas pour diviser, c'est bien pour effectivement être dans une espèce de concorde. On a vu le contre-exemple hier à Ajaccio avec Monsieur Zemmour. Si on croit qu'on va pacifier notre pays qui est totalement fracturé en interdisant les prénoms de Moussa, de Mohamed, etc., il faut nous expliquer comment on va y parvenir. C'est un déni de réalité. Maintenant, je suis heureux que j'ai une passe décisive de M. Bigot à l'endroit d'Édouard Philippe. Moi, je suis ravi qu'Édouard Philippe souhaite élargir la base électorale de la majorité présidentielle d'un côté pour faire réélire le président de la République Emmanuel Macron, que je souhaite de mes voeux, et de l'autre côté, pouvoir s'inscrire, prendre date, cranté sur la dispersion, il faut le dire, d'une droite républicaine qui se cherche, et plus elle se cherche, moins elle se trouve. Et c'est bien dommage d'en arriver là pour la droite républicaine que j'affectionne particulièrement. J'en viens et je prends mes responsabilités et je suis heureux aujourd'hui de voir qu'Édouard Philippe souhaite justement recomposer cette droite qui est dispersée façon Peulse.
Le temps file, je voudrais qu'on parle de ce phénomène en pleine expansion, la question des mineurs isolés, des jeunes étrangers en errance, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont souvent exploités par des réseaux criminels. Ils seraient autour de 20 000 en France. Et des sénateurs de tous bords demandent une vraie politique nationale après la remise d'un rapport. Voyez ce reportage, on en parle juste après.
Aux abords du marché des Capucins à Bordeaux, le cas des mineurs non accompagnés pose problème. Certains traînent en groupe et s'en prennent aux passants, obligeant les commerçants à s'adapter.
Changer de staff, ouais, suite à des intercations avec des gens le soir surtout. Ouais. Et du coup, voilà, les femmes seules ne pouvaient pas plus travailler seules, quoi.
Un phénomène bien connu des policiers qui manquent de moyens pour s'en occuper et surtout qui doutent de leur minorité, comme en témoigne Jordan Dussault, représentant de l'UNSA Police.
Ils se déclarent mineurs systématiquement. Effectivement, si nous, on pouvait avoir le moyen de faire en sorte de voir que ce n'est pas forcément une bonne déclaration et que ce sont des majeurs, le traitement judiciaire n'est pas du tout le même.
Pour Xavier Iacovelli, l'un des sénateurs à l'origine du rapport d'information sur les mineurs non accompagnés, la méthode de test de la minorité est défaillante.
On est sur des évaluations, des tests osseux, qui sont d'ailleurs peu fiables, il faut se le dire, puisque c'est sur un référentiel qui date de 1930, donc la population a évolué depuis 1930, et il y a une marge d'erreur qui peut aller jusqu'à 18 mois à 2 ans.
Selon le rapport, le nombre de mineurs non accompagnés a plus que triplé en France ces dernières années, passant d'un peu plus de 5 000 à 17 000. Les sénateurs appellent le gouvernement à se doter d'une politique nationale pérenne sur la question.
Ça donne le sentiment qu'on court après les solutions, Karl Olive, qu'on ne voit pas les phénomènes arriver dès le début et qu'on prend des décisions trop tard. Est-ce que c'est la réalité?
On s'aperçoit qu'on a 17 000 mineurs étrangers non accompagnés sur un rapport de 2019. Il y a évidemment le sujet de l'immigration et qu'il faut qu'elle soit contrôlée. Et on a un sujet derrière de l'intégration. Mais avant de parler effectivement de procédure pénale, c'est bien aussi de parler de prévention sociale.
Et d'accompagnement.
Et d'accompagnement. Parce que là, finalement, ils sont jetés en pâture, parfois à l'insu de leur plein gré ou parfois de façon volontariste. Et ça, c'est certainement pas normal. Mais avant, encore une fois, d'appeler, et c'est ce que je souhaite, une justice qui soit vraiment une justice proportionnelle au délit, il faut évidemment de la prévention sociale qui doit être organisée comme partout.
Guillaume Bigot.
Je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. C'est une espèce de novlangue incroyable. D'ailleurs, prenez l'expression « sans papier », c'est tout à fait caractéristique. Sans papier, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas de papier, qu'on les a privés de papier. En général, les migrants détruisent leurs papiers pour pas qu'on les reconduise chez eux, d'une part. D'autre part, c'est mineurs non accompagnés. Même quand on entend le mot « mineurs non accompagnés », c'est-à-dire qu'ils auraient dû être accompagnés, mais ils ne sont pas là. Peut-être qu'on les a déposés derrière la frontière. Enfin, écoutez, il y a des dispositifs législatifs qui ont été faits, effectivement, pour des orphelins de guerre. Aujourd'hui, il y a des pays comme le Maroc qui nous envoient des délinquants. Il s'agit de délinquants qui
alors, souvent ont plus de 18 ans. Pas tous en l'occurrence.
On ne va pas refaire cette séquence. Moi, je ne vais pas tomber dans ce piège. Simplement, il faut interroger, non pas moi, mais je ne suis pas un spécialiste. Il faut interroger la préfecture de police de Paris. Il faut interroger la gendarmerie. Et ils vous diront ce qu'il en est de ces mineurs qu'on jette en pâture. Ils ne se jettent pas en pâture. Ils sont souvent délinquants avant d'arriver ici et ils continuent leur activité délinquante. Par ailleurs, un État, je dirais, à la fois digne de ce nom, qui protège ses concitoyens, c'est quand même la première mission d'un État, quelles que soient leurs origines, et d'autre part, puisque ce n'est pas les bobos qui font des grandes phrases sur les mineurs isolés qui subissent leur prédation, hein. Ce sont les que soient leurs origines, qui sont plutôt modestes. Mais ça n'intéresse pas les bobos. En réalité, la première chose qu'un État digne de ce nom, mais aussi un État avec une conscience humanitaire doit faire, c'est bien sûr rendre ces mineurs à leur famille, s'ils sont mineurs, évidemment. Donc les ramener chez eux et les ramener à leur famille.
Karl Olive, qui doit les prendre en charge?
Leur famille.
Leur famille, au départ, souvent, c'est des familles qui n'existent pas de fait sur l'autorité parentale. On pourrait en reparler.
On les recherche.
Et puis, on a ces jeunes. Je pense véritablement qu'il y a un vrai sujet de contrôle de l'immigration pour qu'on ait une meilleure intégration avec des codes qui soient affichés.
Ce que vous avez dit, règles... vous faites depuis 40 ans.
Et c'est justement pour ça, Guillaume Bigot, parce que effectivement, c'est pas un
microclimat
de gauche comme de droite.
Ce qui est excessif est insignifiant, mais l'acharnement thérapeutique de ces genres de politique est excessif.
Mais
Il faut balayer. Et donc, assez signifiant, malheureusement.
On laisse terminer, Caroline, et ce sera la fin du débat.
Il faut balayer tous devant sa porte, et votre serviteur en premier, évidemment. Je pense qu'il faut une politique d'intégration digne de ce nom, avec des règles où vous êtes dans le jeu, où vous êtes en dehors du jeu. Et comme dans le sport, quand vous êtes en dehors du jeu, il y a une sanction.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci infiniment d'être venus. Merci. Guillaume Bigot et Carl Olive, maire de Poissy. Merci d'être venus débattre dans cette matinale le week-end. Le grand rendez-vous, c'est à 10h, comme tous les dimanches, bien sûr, sur CNews et Europe 1. Avec vous, Sonia Mabrouk. Qui est votre invitée ce matin, Sonia ?
Bonjour à vous Isabelle, bonjour à tous. Notre invité, c'est le candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg. Il espère une remontada pour la France axée sur deux domaines, la reconquête industrielle et surtout la souveraineté de notre pays.
Et quel est le thème principal sur lequel vous allez l'interroger ?
Eh bien, nous allons axer cet entretien à 10h dans le grand rendez-vous sur la souveraineté. Finalement, tout découle de la souveraineté, tous les grands thèmes, jusqu'où veut et peut aller le candidat Arnaud Montebourg, sachant que la souveraineté, c'est aussi le thème défendu par Éric Zemmour. Alors comment se démarquer ? Réponse tout à l'heure à 10h sur CNews et Europe 1.
Merci beaucoup Sonia, à tout à l'heure. Tout de suite, on parle de santé dans la matinale week-end.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, okay. La matinale week-end.
C'est l'heure de la chronique santé avec Brigitte Millot, notre bon docteur. Bonjour Brigitte.
Bonjour Isabelle.
On va parler de cortisone. C'est un mot qui fait peur, c'est un médicament qu'on connaît et pourtant on n'est pas rassuré quand il est prescrit par le médecin.
Oui, mais c'est pas normal. Il faut arrêter d'avoir peur de la cortisone. C'est très efficace. La cortisone, en fait, à la base, donc c'est un médicament, la cortisone, mais ça reproduit l'activité d'une hormone qu'on a tous naturellement, qui s'appelle le cortisol, qui est sécrété par une petite glande qui se trouve au-dessus du rein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle la surrénale. Et donc cette surrénale sécrète du cortisol. Et en fait, là, le médicament, ça va être un médicament qui va mimer les mêmes effets que le cortisol, qui va vous mettre en éveil, qui va agir sur tout notre organisme. C'est aussi l'hormone du stress, vous savez. Et en fait, c'est très sécrété le matin. Il y a un pic le matin. C'est pour ça que le médicament, on le donnera aussi
le matin.
Le matin.
Donc c'est plutôt rassurant, finalement.
C'est plutôt rassurant de savoir que ça mime l'effet. Alors, on va utiliser ces médicaments essentiellement pour trois de leurs propriétés. C'est un super anti-inflammatoire. Mais super puissant. C'est le plus puissant des anti-inflammatoires. Donc, dès que vous aurez un problème, une bronchite, un problème pulmonaire, une sinusite, où il y a une vraie inflammation, vous voyez, où ça fait mal, on va vous donner de la cortisone. Ou alors des douleurs, vous savez, des sciatiques, douleurs dans le dos, des rhumatismes. Là, on va vous donner de la cortisone pour son effet anti-inflammatoire. Ensuite, on peut vous donner aussi de la cortisone pour ses effets, pour ses propriétés anti-inflammatoires. Allergique. Elle est aussi anti-allergique. Donc quand vous faites, je ne sais pas moi, une allergie au soleil, une allergie au pollen, votre médecin peut vous prescrire aussi de la cortisone ou alors une allergie cutanée ou de l'eczéma. Là, ça existe aussi en crème. On peut vous donner de la cortisone. Et ensuite, il y a une troisième propriété qui est utilisée, qui est un peu moins connue, c'est qu'elle est en fait immunosuppressive. Elle va faire baisser vos défenses immunitaires. Vous allez me dire, c'est bizarre pour un médicament de faire...
Exactement. Et voilà. Alors ?
Et en fait, prenons l'exemple d'une greffe. On vous greffe un rein ou autre chose, vos défenses, elles vont se dire, hop, 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 ça va pas, il y a un corps étranger qui arrive, j'en veux pas, je vais m'en débarrasser. Donc, on va calmer les défenses immunitaires pour qu'elles ne se débarrassent pas, qu'elles fassent pas un rejet du greffon. Ou alors, vous savez, les maladies auto-immunes, quand notre immunité, elle bug, elle se trompe, et au lieu d'attaquer l'étranger, elle va attaquer nos propres cellules, comme dans la sclérose en plaques ou la maladie de Crohn. Et ben là, on va faire baisser les défenses immunitaires en donnant de la cortisone.
Alors, pardonnez-moi, mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle a mauvaise réputation.
Elle a mauvaise réputation parce qu'en fait, quand on la donne en cure courte, il n'y a pas du tout d'effet secondaire. Et là, j'en profite pour dire et répéter, surtout quand votre médecin vous donne de la cortisone moins de 10 jours, n'ayez pas peur, parce que j'en connais plein qui l'achètent mais qui ne la prennent pas, ou alors qui disent à leur pharmacien, non, ça j'en veux pas, c'est de la cortisone, c'est trop fort. Après, en cure longue, ça a beaucoup d'effets secondaires, c'est vrai.
Les faux vrais, est-ce que ça fait grossir ?
Vrai et faux. En cure courte, rien du tout. Vous ne prendrez pas un kilo. En cure longue, oui, mais ça, votre médecin, dès qu'il y a un traitement long, votre médecin vous expliquera ce qu'il faut faire.
Ça énerve ?
Oui, ça énerve, parce que c'est l'hormone de l'éveil, de la stimulation. C'est pour ça qu'on le donne le matin, hein. Ça va vous énerver, oui.
C'est quand même un médicament miracle.
Alors, c'est un médicament, miracle, j'aime pas le mot en médecine, oui. Mais c'est un médicament qui est majeur, qui a permis de soulager des patients, qui est majeur dans la douleur. Donc, surtout, n'ayez plus peur de la cortisone, surtout en cure courte.
Et faites confiance à votre médecin si vous la prescrit, c'est pour une bonne raison. Isabelle. Merci beaucoup, docteur. C'était la chronique santé du docteur Brigitte Millot.
La matinale week-end, CNews Europe 1. Isabelle Moreau.
8h30 en direct dans la matinale week-end CNews Europe 1. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, l'actualité c'est maintenant. C'est avec Elisa Lukavski.
Un élu agressé, ça s'est passé vendredi soir en banlieue parisienne à Ivry-sur-Seine exactement. C'est l'adjoint du maire de la ville qui a été visé alors qu'il sortait d'un match de handball. Le maire déplore un cycle de violence entre les jeunes de différents quartiers dans sa ville. Valentine Leboeuf, Solène Boulan et Ozlem Unal.
C'est aux abords d'un gymnase que l'adjoint chargé de la jeunesse à la mairie d'Ivry-sur-Seine a été agressé. L'homme âgé d'une trentaine d'années sortait d'un match de l'équipe locale de handball lorsqu'il est pris à partie par une dizaine d'individus. D'abord frappé derrière la tête, il reçoit plusieurs coups de couteau dans la cuisse. Pour les habitants du quartier, l'incompréhension.
Ces personnes-là, c'est ces personnes qui nous représentent, ces personnes qui font en sorte que tout se passe bien dans la ville et on les agresse. Surtout qu'il y a d'autres moyens que la violence. Tout passe par le dialogue.
La violence, en ce moment, voilà, je la trouve un petit peu... Ça fait peur.
L'élu a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Son collègue également présent a été légèrement blessé. Angelo Bruno, secrétaire national Île-de-France du syndicat Unité SGP Police, déplore un manque de fermeté vis-à-vis des jeunes de certains quartiers.
Il faut des peines fortes pour sanctionner ces jeunes qui pour eux, de toute manière, c'est un jeu. La délinquance, elle augmente dans la dureté.
Une cellule psychologique a été mise en place à la mairie et une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Vive tension en marge du déplacement d'Éric Zemmour en Corse. Il était hier à Ajaccio dans le cadre de sa tournée promotionnelle et juste avant la réunion qu'il tenait sur le port. Des altercations entre ses soutiens et des personnes qui lui sont hostiles ont éclaté. Les CRS ont dû intervenir. Le discours a finalement pu se tenir. Dans la foulée, Éric Zemmour s'est exprimé sur ses échauffourées.
Je ne suis ni raciste, ni homophobe, ni que sais-je encore.
Je suscite des oppositions et je suscite... un enthousiasme qui n'existe pas ailleurs, vous l'aurez remarqué. Voilà, c'est tout. Les oppositions, vous savez, c'est le vieux monde qui s'écroule. Les oppositions, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de prise sur le pays. Et c'est ça qui les rend fous et hystériques et intolérants.
Du sport avec le 20 km de Paris qui se court. Aujourd'hui, le départ dans moins d'une demi-heure maintenant. Et on retrouve sur place notre journaliste Thibaut Marcheteau qui va prendre part à cette fête que vont être ces 20 km. Vous êtes accompagné de Sandrine Baccaro. Thibaut, alors à 30 minutes du départ, quelle est l'ambiance autour de vous? Racontez-nous.
Oui Isabelle, on est ici à ce village des 20 km de Paris. Alors les coureurs, les 12 000 coureurs qui vont participer à cette course sont arrivés depuis 7h30. Ils ont récupéré leurs dernières affaires, leurs derniers dossards. On a commencé l'échauffement. Tout semble réuni pour une belle matinée de sport. On est au pied de la Tour Eiffel dans un cadre idéal. La météo est parfaite. On a rencontré Antonin qui va courir ces 20 km. Pardon. Antonin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui fait que tu participes ce matin
Ouais, bonjour, pour découvrir Paris tout d'abord déjà, et ensuite prendre du plaisir sous ce beau ciel bleu parisien. Après, si on peut faire entre 1h20 et 1h25, bon, ça sera bien.
Et on est sur un parcours, idéal, on va faire les plus grandes avenues de Paris, finir par le Bois de Boulogne et les Quais de Seine. Est-ce que ça a pesé aussi dans la balance de ton inscription?
Oui, tout à fait, j'ai fait le semi dans l'Est parisien en septembre, et là aujourd'hui c'est plutôt l'Ouest parisien, donc ça permet de découvrir vraiment tout Paris en courant, c'est sympa.
Merci beaucoup, on te souhaite une belle course Antonin, et puis moi Isabelle je vous dis à tout à l'heure, parce que je vais devoir aussi aller m'échauffer pour participer à ces 20 km.
On vous souhaite bon courage Thibaut pour ces 20 km de Paris, cette balade sportive et culturelle à la fois. Allez, du foot pour terminer, pour vous dire que ce soir c'est la finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne, les Bleus avec en attaque notamment Benzema, Mbappé et Griezmann normalement qui fêtera sa 100e sélection. Adrien Rabiot ne fera pas partie de la fête, il a été contrôlé positif au coronavirus. On espère que les Bleus vont cartonner après un euro décevant.
Merci beaucoup Elisa Lukavski. Je rappelle que votre prénom c'est bien Elisa, c'est Isabelle Moreau, c'est moi. Merci beaucoup à vous. Bienvenue à Mathieu Altermat maintenant dans la matinale week-end du service culture d'Europe 1. Ça va Mathieu ?
Ça va très bien.
Ça va mieux certainement que la musique live. Vous vous penchez sur une de ses conséquences du Covid. Le public déserte littéralement les salles depuis la fin du confinement.
Oui, vous avez raison de dire que je vais mieux que la musique live parce que les chiffres sont très inquiétants, Isabelle. Les ventes de billets ont chuté cet été pour les festivals de 75% et de 56% pour les concerts comparés à 2019. Un cataclysme. On parle d'une perte de 783 millions d'euros dans tout le domaine du spectacle vivant, musical et de variété.
Le pass sanitaire est en cause ?
Oui, alors en partie, mais pas seulement, parce qu'on a aujourd'hui 85% de vaccinés et ça redémarre quand même très très mollement. En fait, cette crise était sous-jacente avant le Covid. Vous savez, le Covid a transformé toute notre manière de consommer, également pour la musique. Et finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que les spectateurs veulent vivre un immense événement. Ils veulent rencontrer des mythes, voir sur scène des légendes, écouter des tubes qui ont bercé leur vie. Et ces stars, malheureusement, ces locomotives, comme on dit dans le métier, bah, elles se font plutôt rares, voire absentes. Céline Dion a reporté en 2023, sa venue aux Vieilles Charrues. Et heureusement, on a quand même quelques nouvelles ces derniers jours parce que le secteur était sinistré avec le retour de Stromae à Rock en Seine, pour le prochain Rock en Seine de 2022. Donc ça, c'est une grande nouvelle qui vient de tomber. Les énormes succès des ouvertures pour le Hellfest, le festival de métal qui a lieu tous les ans et qui a une affiche prestigieuse. Et puis le retour enfin de la tournée d'Indochine qui était reportée d'année en année suite à la pandémie. Et enfin, l'immense succès de l'ouverture pour Mylène Farmer qui a vendu quand même 200 000 billets en 8 heures. Donc ces signes-là vont quand même un petit peu redynamiser le secteur. Mais finalement, c'est comme le cinéma ce qui est en train de se passer. Vous savez, dans le cinéma, ce sont les gros films qui font vivre toute l'industrie et les petits films. Grâce à James Bond, les gens, par exemple, vont dans une salle, ils prennent connaissance des petits films, ils se disent « je vais aller le voir ». Bah, c'est la même chose dans la musique. La musique live,
ce sont les locomotives.
Mais voilà, la musique live, elle a besoin de ses stars aux nombreux succès pour pouvoir nourrir toute une industrie.
Merci beaucoup Mathieu Altermat. On espère que cette musique live retrouvera des couleurs très prochainement. Et puis, puisqu'on parle de tête d'affiche, Jean-Jacques Goldman, on le rappelle, fête ses 70 ans demain.
Et ses 20 ans d'absence.
Et ses 20 ans d'absence, exactement. Juste après la météo de Claire Delorme, vous retrouvez Jean-Pierre Elkabbach, son invité ce matin, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.
La matinale week-end, CNews Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach.
2. Bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Vous n'étiez pas au Havre, pourquoi ?
Moi je suis, vous savez, très attachée à la clarté en politique. Et je crois que les Français, d'ailleurs, ils attendent de la clarté parce qu'on a un champ politique aujourd'hui entre la droite et la gauche très incohérente, avec Éric Zemmour qui dit des horreurs. La clarté, elle est celle que le président de la République défend depuis 2017.
Donc quoi, c'était l'obscurité.
La clarté, c'est le dépassement politique, c'est une action résolue pour les Français qui dépasse les clivages de droite-gauche. Et moi, je vais vous le dire très personnellement, les chapelles, les partis qui se multiplient, ça ne contribue pas à la clarté. Ce qui est clair aujourd'hui, ce qu'on doit montrer aux Français, et je crois que c'est ce qu'ils attendent, c'est est-ce qu'on soutient ou pas clairement le président de la République.
Et vous estimez que ce n'est pas assez clair.
Et ce que j'ai entendu et ce que je crois qu'on doit retenir d'hier, c'est qu'il y a 2000 personnes, hier, qui se sont réunies et qui ont décidé de vouloir soutenir le président de la République. Ça, c'est clair et c'est une bonne nouvelle.
Édouard Philippe a dit et répété, je veux la réélection d'Emmanuel Macron. Bien. Mais il a confié au journal du dimanche que vous avez lu, en une, cette réélection n'est pas acquise.
Bah, la réélection, c'est quoi ? C'est clairement parler aux Français d'abord du président de la République et de son action. C'est clairement ensuite réunir, élargir, poursuivre.
Mais vous confirmez que la réélection n'est pas acquise. Bien sûr, mais c'est ouvert, une réélection, surtout quand elle a un président sortant.
L'élection d'un président sortant, il faut bien qu'on soit dans la rupture. On n'est pas des conservateurs. Il faut qu'on incarne encore l'innovation pour réparer, pour préparer notre vie. Mais ce que j'ai à vous dire, ce qui compte pour moi, de manière très claire, ce n'est pas les chapelles, ce n'est pas les partis, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de incarner clairement un soutien sans contrepartie à l'action du président de la République.
Donc là, il y a des risques de demande de contrepartie. Et puis, mais on va voir, il y a une nouvelle offre politique, dit-il, qui est née au Havre.
Non. Moi, je vous le dis, l'offre politique nouvelle, c'est celle du président de la République. Et en 2017...
D'accord, on ne va pas le répéter,
oui,
le président de la République.
Mais qu'est-ce qu'il a fait en 2017, le président ? Il a dit, le clivage droite-gauche, il est incohérent, il ne permet pas au pays d'avancer, Il nous maintient dans des discussions qui n'avancent pas. Notre pays a besoin d'avancer. Avançons en étant...
C'était il y a 5 ans.
Oui, mais
nous sommes en 2022, il y a 5 ans de pouvoir, d'état de crise plus ou moins bien maîtrisé. Mais pourquoi les ministres ont eux-mêmes séché le rendez-vous? Pourquoi le boycott?
Aucun boycott. Aucun... Nous, on est clair. On soutient le président. Ce que j'ai vu hier, je le redis. C'est 3 choses. C'est 2000 personnes qui se réunissent pour voter pour Emmanuel Macron.
Je ne suis pas sourd, j'ai déjà entendu.
Oui, mais ce sont des personnes qui étaient des opposants de droite jusqu'à maintenant. Ce sont des personnes qui, il y a quelques semaines, quelques mois, n'auraient pas dit qu'ils soutenaient le président de la République et sa réélection.
D'accord, mais ils ont applaudi quand ils ont entendu qu'il y a que pour une éventuelle victoire, Édouard Philippe sera indispensable.
Ce que j'ai entendu de clair aussi, deuxième chose, c'est qu'il souhaite, il affirme vouloir inscrire cette initiative dans la maison commune de la majorité. C'est naturel, il a été le premier ministre de cette majorité pendant 3 ans. Mais c'est aussi une bonne nouvelle. Ce que j'ai aussi entendu, c'est que ces deux éléments, 2000 personnes, anciennement des opposants de droite, qui se réunissent, l'affirmation de vouloir rejoindre la maison commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mauvaise nouvelle. D'accord. Pour ceux qui, à droite, sont dans l'incohérence, pour Mme Pécresse, pour M. Bertrand, pour M. Barnier, qui ne sont pas clairs.
Non mais attendez, on va essayer alors d'être clair à partir des propos
d'Edouard Philippe. C'est une question de clarté pour 2022.
Il vous fait la leçon. Il dit qu'il faut préparer 2050. Il faut voir loin. Est-ce que ça veut dire que les macronistes, vous avez la vue courte?
Non, mais qu'on soit très clair.
Vous dites 2030, il dit 2050. On aurait pu dire 2080 aussi.
Aujourd'hui, vous voyez, on est en octobre 2021. On n'est déjà pas ni en 2022 et sûrement pas ni en 2027 ni plus loin. L'action que nous menons, c'est une action chaque jour. Le président de la République, vous voyez, mardi, va annoncer un plan d'investissement pour que nous préparions la prospérité, la souveraineté, bref, la justice territoriale de la France qui
pour
vient.
Pour 2030.
Mais nous
lui,
commençons,
vous dit 2050. Vous voir loin.
Oui, mais nous commençons aujourd'hui. L'action, elle se fait chaque jour, quotidiennement. Et évidemment, par les choix que nous prenons successivement, nous construisons demain. Évidemment qu'on doit préparer le pays. Mais je pense qu'il serait obscène aujourd'hui, dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, de faire comme si nous pouvions parler de très très loin sans nous préoccuper aujourd'hui de ce que
donc,
les Français nous demandent de faire là où ils sont.
Obscurité, obscénité. Mais je vous dis,
moi, non, je
mais
crois que la politique, si doit, la politique, vous savez,
je vais pas
chose.
M'attarder, mais je veux comprendre ce qui est en train de naître. L'ex-premier ministre d'Emmanuel Macron, il vous met en garde et il alerte. Il dit, il faut de l'ordre dans les déficits et les comptes publics. Vous avez trop dépensé, peut-être avec le quoi qu'il en coûte, répondre à la pandémie qui a provoqué des dépenses énormes et d'ailleurs qui ont calmé un pays qui est angoissé. Mais il ne fallait pas tant arroser. Il dit de l'ordre aussi dans la rue parce qu'il y a des violences qu'on voit chaque jour. Il y a de l'insécurité.
Je vous reprends. Aujourd'hui,
c'est lui qui le dit, c'est pas moi.
Clarté. On soutient l'action du président ou on ne la soutient pas. Si on la soutient, on la soutient résolument. Deuxième chose...
Vous donnez l'impression d'être embarrassé.
Pas du tout. Ce qui serait embarrassant, c'est qu'un Premier ministre qui a servi pendant 3 ans le président de la République, qui a servi l'action du président de la République, dise autre chose que « je souhaite sa réélection ». Ce qui serait embarrassant, c'est que nous n'arrivions pas, alors même que la droite et la gauche se fourvoient tous les matins dans des discours incohérents. Je pense à Mme Pécresse, par exemple, qui est partie des Républicains parce qu'elle trouvait que Laurent Wauquiez copiait les thèses du FN sur l'immigration et qui aujourd'hui court après Zemmour. Elle est là, l'incohérence. Elle est aussi là, l'obscénité. Nous sommes...
Et Michel Barnier.
Michel Barnier. Mais revenons-y. Un pro-européen qui, pendant des années, a fait de son combat l'unité européenne, qui a trouvé un accord sur le Brexit alors que c'était très compliqué, et qui, par électoralisme, à la première, vous voyez, confrontation venue,
il s'est défendu. Et il s'est... Vous n'allez pas l'accuser d'aller vers un Frexit comme les Polonais.
Il se met dans les pas de pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui disent très clairement que le droit européen, eh bien, au fond, on le met de côté. Je pense que l'électoralisme de cette droite qui a perdu sa boussole, là, il y a de l'obscénité. Là, il y a de l'obscurité. Et il y a surtout un électoralisme qui fait monter M. Zemmour et ses horreurs. Notre clarté à nous,
tout à l'heure on verra
les
horreurs.
Mais attendez, c'est pas les chapelles, c'est de dire clairement est-ce qu'on soutient ou pas le président de la République.
Donc, c'est
est-ce
bien.
Qu'on est capable d'élargir...
Au Havre est né le début d'une chapelle. Quand il a lancé son parti, est-ce que le président de la République l'a encouragé à créer le parti?
Je ne connais pas les échanges que le président de la République a avec les uns et les autres. En revanche, je connais ce qu'il nous demande à nous, ministres, de faire.
Ouais.
Il nous le demande toutes les semaines, dans chacune de nos actions. Être ambitieux pour le pays, être clair et dépasser les clivages. Continuer à élargir, continuer à dépasser.
Est-ce qu'il y avait urgence à créer ce parti?
Alors, il y avait en tout cas besoin d'une clarification, que je crois qu'Édouard Philippe apporte. Il s'inscrit dans la réélection. Et 2000 personnes venues de la droite se réunissent. D'accord. Et il rejoint, et il affirme vouloir rejoindre la maison commune.
Horizon, c'est un beau nom prometteur. Horizon pour qui, d'ailleurs?
Là aussi, je vous l'ai dit, je vais le redire. Pour moi.
Non, 2000 personnes, non, c'est etc. Que la clarté.
Je vais vous le redire. Ce qui, pour moi, ce qui compte, c'est pas ce qu'on est. C'est pas le nom qu'on porte, c'est ce qu'on fait. Et c'est comme ça que depuis 4 ans, le président demande que nous agissions.
D'accord.
Que nous soyons concentrés sur l'action que nous menons, sur la vie quotidienne des Français, sur la réalité du pays. Et donc, les noms partis de ça, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon sujet.
D'accord, mais vous avez prévenu, au moment où il a quitté Matignon, j'étais loyal, je suis libre. Il est en train de vous le démontrer. Mais Horizon va aussi, il le laisse entendre,
il est engagé auprès
donner
du président.
Des investitures pour avoir des députés philippistes qui comptent après si jamais le président est réélu.
Qu'on soit clair, là, on a un combat, l'élection présidentielle. Tous les scénarios fiction sur ce qui se passera après, sur comment on le fera, sur les contreparties, ce n'est pas le débat. Là aussi, les Français...
Ils le lancent, le débat.
Oui, mais les Français, ils attendent quoi?
Ils le lancent, le débat.
Ils attendent tiens, de
sur
nous.
Sur nous leur la réforme de la fonction publique, vous êtes responsable, vous, et de la transformation. Il dit « Notre État est trop lourd pour être agile. Il doit être plus efficace dans un périmètre resserré aux fonctions régaliennes, la justice, la police, etc. etc. »
Là, Édouard Philippe, il a été 3 ans notre Premier ministre. Il a mené des actions qui n'étaient d'ailleurs pas celles de resserrer le service public sur les seules fonctions régaliennes. On peut tous faire des propositions. Maintenant, il ne faut pas oublier la réalité du pays et aussi ce que la crise que nous venons de vivre nous a appris. Avec Jean Castex, l'action que je mène, c'est une chose très claire. Le service public, les Français, ils ne sont pas en train de nous demander qu'on le réduise. Ils nous demandent qu'on le rende plus efficace. Ce n'est pas les mêmes actions, ce n'est pas les mêmes besoins. Le service public de la santé, ce n'est pas un service public régalien. C'est un service public aujourd'hui que tous les Français plébiscitent et nous demandent de soutenir. L'action que je mène avec Jean Castex, c'est une action de dire on veut plus d'efficacité.
C'est plus clair, c'est pas obscène.
On a besoin d'avoir des agents publics sur le terrain proche des Français.
Une question qui dépend de votre ministère.
Beaucoup moins de complexité.
Une question qui dépend de votre ministère. Le 1er janvier prochain, c'est-à-dire dans 3 mois, votre réforme de la haute fonction publique devrait s'appliquer. Mais elle a été imaginée en 2019. Pourquoi pas avant? Elle va être appliquée en 2022. Pourquoi pas avant? Qui l'a bloqué? Emmanuel Macron l'a bloqué? L'a retardé?
Elle a été imaginée en 2016-2017 par le président de la République qui, dès sa campagne, a dit « Je serai le président qui, enfin, va faire cette réforme dont on parle depuis 30 ans parce qu'elle est absolument nécessaire si on veut que la France... »
Il l'a bloqué?
Il y a eu
ou retardé?
Non, mais il y a eu des scepticismes, il y a eu des lois votées, il y a du travail qui a été fait. Aujourd'hui, on met en œuvre une réforme qui est majeure.
Qui l'a bloqué?
Je ne sais pas vous dire, je n'étais pas ministre. Ce que j'ai à vous dire, c'est que moi, je suis ministre depuis le mois de juillet 2020. Cette réforme, nous la faisons. Nous la faisons pour que les Français aient une action publique efficace, proche d'eux. Et ça fait 30 ans qu'on en parle. Et parce qu'on va former différemment. Et on va surtout recruter différemment ceux et celles qui servent les Français.
Vous avez, pour les mois qui viennent, deux batailles à mener, deux fronts qui sont déterminés. L'un, vous l'avez cité tout à l'heure, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier. Et puis, il y a d'abord... Éric Zemmour, il est en train d'absorber les maris lepénistes. Et en tout cas, il a l'air de vous obséder, puisque dès la première phrase, vous avez parlé de lui. Alors, est-ce qu'il devient une alternative?
Moi, je ne suis pas obsédée par M. Zemmour. Mais je suis ici sur une chaîne où M. Zemmour travaillait.
Oui. Regardez BFM et regardez tous les médias aujourd'hui.
Et je dois vous dire que ce qu'il a dit, il y a quelques jours, sur Vichy, sur M. Mengele, à mes yeux... le disqualifie à jamais de devenir un responsable politique, même d'être candidat à une élection. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui dans notre pays, faire ce que peut-être le FN n'a jamais fait, c'est-à-dire introduire l'idée qu'il y aurait une comparaison ou même un débat entre un ministre, quel qu'il soit, de l'Éducation nationale ou de quoi que ce soit d'autre, et un responsable du plus grand crime contre l'humanité qui était mené dans notre siècle, qui est la mort de 6 millions de personnes, de tant de juifs et de juifs français, et de considérer qu'il y a là même un enjeu de débat politique.
Les Français,
ils emportent...
Le médecin nazi d'Hitler dans les camps de la mort.
Les Français, ils portent cette blessure indélébile d'avoir été au cœur. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, là où même le FN des années 80, qui était pourtant rempli de collabos négationnistes, n'a jamais osé aller sur ces terrains-là? Comment allons-nous laisser un tel personnage Oui. Imaginez mais être alors, un jour un responsable politique.
D'accord, mais
c'est
expliquez-moi
ignoble.
Pourquoi il séduit, pourquoi il est en train de monter, pourquoi il progresse.
Moi, je n'ai pas expliqué ça. J'ai à voir qu'il y a.
Vous
des
dites
qu'il
dit des horreurs et il progresse. Et partout, il dénonce le déclin de la France, de l'Occident, la civilisation chrétienne. D'abord, et apparemment, ça fonctionne.
Un à droite. Aujourd'hui, ceux et celles qui justement voulaient faire rempart à des idées d'extrême droite sont en train de courir après M. Zemmour. Par électoralisme, j'en ai parlé. Il y a aussi un grand vide. On ne comprend pas les propositions. J'étais au Sénat, vous voyez, sur la réforme de la haute fonction publique. Des hommes et des femmes qui ont été dans les gouvernements depuis 30 ans, qui ont voulu faire cette réforme, ou en tout cas qui l'ont promise aux Français, n'ont aucune vision de l'État, n'ont aucun amendement, n'ont aucune proposition. Se mettre là dans une pièce, disent on est contre le gouvernement, mais on n'a rien à dire sur le fond. C'est ça qui contribue à ce grand vide et à cette grande confusion et qui laisse de l'espace à des choses qui, je le redis, sont ignobles et ne correspondent pas à ce qui devrait même être dans le débat politique.
Faites attention, parce que plus on le cogne, plus vous le renforcez.
Alors, je pense, M. Elkabbach, on ne peut pas laisser passer dans notre pays l'idée qu'il puisse y avoir le début d'un quelconque débat ou de comparaison entre un ministre de la République et l'un des instigateurs d'un des plus grands crimes de l'humanité de notre histoire.
La réforme que vous portez, importante, va être en place à partir du 1er janvier. En février, vous allez organiser une conférence sociale sur les salaires. C'est-à-dire que vous reconnaissez qu'il faut que ça bouge et que les salaires, il faut qu'ils soient plus adaptés, peut-être même qu'il y ait moins de fonctionnaires.
Non, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le système, il est à bout de souffle. Il n'est pas attractif. Les fonctionnaires eux-mêmes n'y comprennent plus rien. Et on a aujourd'hui des décisions fortes à prendre. J'ai pris des décisions fortes. Je suis la ministre qui a porté la revalorisation de 1,2 million de fonctionnaires qui étaient les moins bien rémunérés.
Eh bien, continuez.
Ce n'est jamais arrivé. Je suis la ministre qui va payer la mutuelle santé des fonctionnaires. Parce que ce n'était pas fait, c'était une injustice. Il y a des choses qu'il faut regarder de près. Il faut qu'on ait un diagnostic commun avec notamment les organisations syndicales sur ce que nous devons
donc
changer.
Donc on en reparlera.
Et
on en est au diagnostic. Merci d'être venu, Amélie de Montchalin. Surtout un moment difficile après le Havre.
Merci. C'est un moment de clarté et je pense qu'il faut qu'on soit avec les Français dans ce moment-là.
Pour la clarté contre l'obscénité. Merci.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis dans la matinale le week-end. CNews Europe 1, à la semaine prochaine. D'ici là, profitez bien de votre dimanche.
La matinale week-end, CNews Europe 1.